Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Une des raisons qui font du cours de Gilles Weinstein, titulaire au Collège de France de la chaire d'histoire turque et ottomane, un moment palpitant, est la lecture d'un grand nombre de récits qui donnent en quelque sorte de la chair aux événements dont il nous parle. Ce cours, consacré à l'histoire des relations diplomatiques entre l'Empire ottoman et l'Europe du XVe au XVIIIe siècle, permet un contact direct avec l'histoire grâce aux histoires, comme nous allons encore ce matin le constater. Hier matin, en effet, Gilles Weinstein nous a raconté comment, pour la première fois dans leur histoire diplomatique, au XVIIe siècle, les Turcs envoyèrent en 1664 à la cour de Vienne Kara Mehmed, un ambassadeur issu d'un rang élevé, alors qu'auparavant les ambassadeurs étaient en quelque sorte les courriers du sultan. Non seulement cet ambassadeur était un grand dignitaire qui arriva à Vienne dans tout l'apparat qu'on imaginait à la cour ottomane, présent somptueux pour l'empereur Léopold Ier, suite nombreuse, etc., mais bien plus, il avait emmené avec lui le plus grand écrivain turc de l'époque, Evliya Çelebi, lequel s'en donna, comme on dit, à cœur joie et écrivit une relation de la rencontre avec une plume aussi drôle qu'acérée. Écoutez.
Nous avions laissé Kara Mehmed à Vienne, préparant l'audience qu'il doit recevoir de l'empereur, avec le commissaire de la cour et le drogman en chef de Léopold Ier. L'ambassadeur, si vous vous en souvenez, pose ses conditions. Et elles sont de plus en plus extravagantes au fur et à mesure qu'avance le récit d'Evliya Çelebi. À en croire ce dernier, l'ambassadeur exige que l'empereur se lève à son entrée dans la salle d'audience et vienne à sa rencontre, puis le baise à l'épaule pendant que lui-même, simultanément, le baisera à la poitrine. De même, Léopold baisera la lettre du sultan et la portera à son front en signe de respect. Il restera debout pendant toute la lecture de cette lettre et pendant que ses cadeaux seront remis à l'ambassadeur et à son escorte. En outre, au cours de cette audience, l'empereur ne devra pas formuler la moindre exigence injustifiée par rapport aux conditions et obligations contenues dans le traité, telles qu'elles figurent dans la lettre adressée par le grand seigneur et dans celle adressée conjointement par le grand vizir à l'empereur. Si au contraire, on repousse ces conditions que met l'ambassadeur à la tenue de son audience, l'ambassadeur en rendra compte à son maître, le padishah. Et l'ambassadeur autrichien, qui se trouve à Istanbul, puisque, comme dans le cas des ambassades précédentes, il y a simultanément ambassade d'un Ottoman à Vienne et d'un Viennois à Istanbul, eh bien, si Kara Mehmed ne voit pas toutes ces conditions satisfaites, l'ambassadeur viennois à Istanbul sera traité de la même façon et, dit Evliya Çelebi, on lui battra froid. Jefa, Jefa, Ederler. Le commissaire de la cour est bien embarrassé par les demandes de l'ambassadeur et il l'interroge sur l'origine de telles idées en lui faisant remarquer qu'aucun des ambassadeurs ottomans précédents n'avaient formulé de telles exigences. Dans ces conditions, le commissaire demande à en référer à l'empereur. Et il y a alors un balai d'allées et venues entre le palais impérial et la résidence de l'ambassadeur. Trois émissaires de l'empereur sont envoyés successivement et c'est finalement à l'arrivée d'un quatrième émissaire que les choses semblent réglées et que la partie autrichienne fait les propositions suivantes. L'empereur se lèvera bien de son trône, il fera 7 pas en direction de l'ambassadeur, il enlèvera, dit Evliyachelebi, sa couronne de la tête pour répondre au salut de l'ambassadeur. Tadjon Bashendan Chokarup, c'est la meneuse Alsen. Puis l'ambassadeur baisera la poitrine de l'empereur, tandis que ce dernier lui baisera le turban. À cette dernière proposition, réaction très vive de l'ambassadeur, qui n'en démord pas, « Yok, omuzumu upsun » dédictait. « Non, il doit me baiser à l'épaule. » Et de guerre lasse, le commissaire finit par céder et par dire « Bien, mon sultan », il appelle l'ambassadeur « mon sultan », conformément à ce que vous avez approuvé, il vous baisera à l'épaule et le César, Tchassar, l'empereur, baisera également la lettre du padishah et la portera à son front. Et durant toute la lecture de cette lettre impériale, l'empereur restera debout. Mais au moment de la remise des cadeaux, il pourra se rasseoir sur son trône. Tout semble donc réglé, mais surgit un nouveau problème et on voit à ce moment, comme très souvent chez Evliyachelebi, que la tonalité se fait plus grave. Le commissaire, en effet, fait état d'une prière de l'empereur. Tous les agas, demande-t-il, qui accompagnent l'ambassadeur pour porter les cadeaux apportés par celui-ci, devront baiser la bordure du manteau de l'empereur et rester les bras croisés en sa présence. D'autre part, l'empereur demande également que pendant la remise des cadeaux par l'ambassadeur, la fanfare ottomane devra jouer en présence de l'empereur. Cette nouvelle demande a le pouvoir de provoquer la fureur de l'ambassadeur, qui sort de ses gonds et qui réplique « Ce n'est pas notre règle de faire jouer la fanfare pendant la remise des cadeaux. Quant aux agas qui portent les cadeaux, ce sont mes serviteurs et il ne convient pas à un groupe de la communauté musulmane d'approcher ainsi Sa Majesté l'Empereur et de lui baiser la main. Doivent-ils être, demande l'ambassadeur, dans la même situation vis-à-vis de l'empereur que vis-à-vis de moi? Et il poursuit, est-ce que l'islam du prophète Muhammad a si peu de dignité pour que mes ahas puissent ainsi m'abandonner pour se tenir les bras croisés, c'est-à-dire dans la position caractéristique des serviteurs, devant le roi? Je lis le texte d'Evliyachelebi. Urzi islami muhammedi yokmudurkim alaren benikoyup kral enunde el kafshurup durala. Voilà une proposition inconsidérée qui est contraire aux usages de la maison ottomane. Ne réclamez pas de moi de telles choses car elles sont contraires à notre loi. Que se passe-t-il? Ce qui avait commencé comme une satire assez grosse des minuties et des bizarreries du cérémonial diplomatique et qui pouvait être interprété à la fois comme une charge contre ce cérémonial et aussi contre l'entêtement bien attesté dans son propre Sefaret Nameh de Kara Mehmed à sauvegarder l'honneur de son maître. Donc, ce qui avait au départ ce caractère devient, par un revirement et par un changement de ton, une espèce d'hommage à la fermeté de l'ambassadeur. Et par conséquent, Evliya, qui a paru d'abord ironique, moqueur, se révèle finalement assez soumis et assez conformiste. Il souligne en effet que que les réponses si fermes de l'ambassadeur ravirent tous les membres de sa suite. Adjeb metanet li tchevabla se le diki, je me l'ai mise gauche au look. Et c'est l'empereur qui se trouve tourné en dérision et rabaissé pour avoir exigé que les serviteurs de l'ambassadeur se tiennent vis-à-vis de lui dans une position de soumission. Non seulement Evliya a mû ses lecteurs ou ses auditeurs, comme à un récit de chansonnier, de ce qui serait pour nous un récit de chansonnier, mais en même temps, il les flatte et les entretient dans le sentiment de la supériorité des Ottomans et de l'islam. Toujours cette ambivalence d'Evliya Çelebi. Et la dérision vis-à-vis de l'empereur trouve une expression encore plus appuyée avec, comme vous allez le voir, un crescendo dans l'ironie, dans un passage fameux, un morceau d'anthologie, je dirais, le portrait qu'Evliya Çelebi va tracer de l'empereur Léopold Ier. Ce texte qui est souvent cité, je vais en proposer une traduction française et vous allez voir qu'il ne manque pas de bouffonnerie. Il dit que l'empereur Léopold avait à peine 22 ans quand il fut couronné roi de Hongrie en l'année, et puis là, il y a un blanc dans le manuscrit, ce manuscrit étant une espèce de brouillon que Evliya manifestement se réservait de compléter quand il en aurait le loisir et qu'il n'a jamais complété. Donc, ce blanc correspondant à l'année du couronnement de Léopold comme roi de Hongrie, eh bien, il faut y substituer soit l'année 1654 de l'ère chrétienne, soit l'année 1064 de l'Égire, qui est même certainement celle qu'Evliya aurait citée s'il avait pu compléter son texte. Mais on peut mettre en doute, poursuit-il, que le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, ait jamais voulu créer une telle créature. Et commence ici le portrait de Léopold. C'est un jeune homme de taille moyenne, imberbe, étroit de hanches, pas véritablement gras et corpulent, mais pas maigre non plus. Bon, jusque-là, c'est assez neutre, rien de particulièrement remarquable. Mais il poursuit. Par la décision de Dieu, sa tête a la forme d'une bouteille et se termine en pointe à la façon d'un bonnet de derviche tourneur ou encore à la façon d'une citrouille. Son front est plat comme une planche. Ses sourcils, touffus et noirs, sont très éloignés l'un de l'autre. Au-dessous, ses yeux, ronds et brun clair, bordés de cils noirs, étincellent comme ceux d'un grand-duc. L'oiseau de proie, n'est-ce pas ? Son visage est long et pointu comme celui de Maître Renard, Adjotilki dans le texte, avec des oreilles aussi grandes que des babouches de petits garçons, et un nez rouge qui brille à la façon d'un grain de raisin pas mûr, et qui, en longueur, est égal à la moitié d'un plateau brisé pour pièces de monnaie, dit-il. Kerek yarem akche tartase. Ou encore, donc il parle toujours de son nez, n'est-ce pas ? Ou encore à la taille d'une aubergine de morée. Mais ça va s'aggraver encore. De ses larges narines, dans lesquelles il lui serait loisible d'enfoncer trois doigts en même temps, sortent des poils aussi longs que la moustache d'un matamore de 30 ans et qui se mélangent en un fouillis impénétrable avec la moustache recouvrant sa lèvre supérieure et avec les favoris noirs qui lui pendent jusqu'aux oreilles. Ses lèvres sont aussi gonflées que celles d'un chameau, et sa bouche pourrait engloutir une miche de pain entière d'un seul coup. Ses dents sont aussi blanches et longues que celles d'un chameau, toutes les fois qu'il parle. Et là, c'est une allusion, quelque peu exagérée, comme vous allez le voir, mais une allusion néanmoins au prognatisme bien connu des Habsbourg et dont Léopold Ier souffrait, comme beaucoup de membres de sa famille. Donc, toutes les fois qu'il parle, la salive gicle et ruisselle de sa bouche et de ses lèvres de camélidée comme s'il était pris de vomissements. Les jeunes pages, à la beauté rayonnante comme le soleil, qui sont à côté de lui, essuient régulièrement la bave s'écoulant de sa bouche avec des grandes serviettes rouges qui servent de mouchoirs. Il met lui-même constamment de l'ordre dans ses mèches et dans ses boucles à l'aide d'un peigne. Et ses doigts ressemblent à des concombres de Langa, un village de la mer de Marmara, connu pour l'énormité de ses concombres. Et dernier trait, n'est-ce pas, qui va encore plus loin que le reste, pointe finale, par la volonté du Dieu Tout-Puissant, tous les empereurs de cette maison sont d'une apparence aussi repoussante. Et dans toutes leurs églises et leurs maisons, de même que sur leur monnaie, ils se font représenter avec cette horrible figure. Si bien, ajoute-t-il, que si un artiste vient à représenter l'empereur avec de jolis traits, il le fait aussitôt exécuter, car il considère qu'il l'a défiguré, tant il est vrai que ces empereurs sont fiers et infatués de leur laideur. Zira bed chere olduechun anonla tefahur kesb ederler. Voyez que là, il n'y va pas, comme on dit, avec le dos de la cuillère, et que la charge est assez violente. Le récit, donc, de l'ambassade de Kara Mehmed par Evliya Çelebi, puisque, comme vous le voyez, il s'agit bien d'une relation d'ambassade. Il évoque bien les différentes phases du cérémonial de l'ambassade. Mais évidemment, ce récit est différent non seulement de celui officiel de Kara Mehmed, mais il est différent aussi, bien sûr, de ce que seront les séfarades namais ultérieurs. Différence qui tient à la place laissée à l'imagination, à la fantaisie, à la satire et au comique le plus irrévérencieux. Mais par ailleurs, le récit d'Evliya Çelebi anticipe les séfarades namais ultérieurs par le souci, un souci qui est toujours mêlé chez lui, mais qui existe néanmoins, de découvrir le pays étranger et de fournir toutes sortes d'informations d'ordre culturel, social, technique, scientifique sur le pays en question. Et un cas représentatif de cette ambivalence d'Evliya Çelebi est la description qu'il donne de la cathédrale de Vienne, la cathédrale Saint-Étienne, un autre passage fameux de son récit de voyage à Vienne. Donc il commence par mentionner le grand nombre d'églises existant à Vienne et pour déclarer que toutes sont éclipsées par celle qui se nomme l'église d'Étienne, Istifani Manastiri, qui se dresse, dit-il, au beau milieu de la ville. Et il poursuit aussi bien en Turquie, c'est moi qui dis Turquie, lui écrit Roum, dans le pays de Rome, c'est-à-dire en fait dans le territoire ottoman, aussi bien en Turquie, en Arabie ou en Perse que dans le reste du pays des infidèles, où nulle part ailleurs sous les 7 climats de notre Terre, on n'a jamais édifié un bâtiment aussi gigantesque et un chef-d'œuvre aussi vénérable que cette cathédrale de Vienne. Tous les voyageurs allant par terre ou par mer estiment que cette église n'a pas sa pareille dans tout le monde habité, et cela est vérifique. Moi-même, l'insignifiant, dit-il, Bouhakir, j'ai vu, dans le port de Danzig, en Pologne, sur la côte de l'océan, croit-il devoir dire, l'église de, et puis là aussi, il a laissé un blanc parce qu'il ne se souvenait pas, sans doute, du nom de cette église. En fait, c'est la Sainte Marie de Danzig. Et j'ai vu aussi, ajoute-t-il, l'église, et là encore un blanc, qui se trouve dans la ville de Kassa, en Hongrie centrale. Donc une autre église, Orda Majarda Kassa-Sheri, l'église de Sainte-Élisabeth à Kassa, en allemand Kassau, qu'il décrit effectivement dans le passage de ses récits consacrés à la Hongrie. Toutes deux, dit-il, donc à propos de la Sainte Marie de Danzig et de la Sainte-Élisabeth de Kassa, toutes deux sont de grandes églises, magnifiques, bien construites, richement décorées et imposantes, mais l'église d'Étienne, dans cette ville de Vienne, est d'un âge plus vénérable encore et d'une plus grande splendeur. Et le prix et la valeur des trésors et de l'or qui s'y trouvent, et des pierres précieuses et des joyaux qu'elle renferme, seul le Créateur omniscient qui est au ciel les connaît. Bon, voyez, jusque-là, il n'y a rien à dire. C'est un peu creux, c'est un peu vide, mais malgré tout, ça reste sérieux. Des églises semblables que j'ai vues jusqu'à maintenant, cette église de Saint-Étienne est la toute première. Et puis, il se met à donner des détails, et comme vous allez le voir, on commence à décrocher rapidement de la réalité. Il indique ainsi, elle est en partie surmontée de coupoles de pierre qui s'élèvent jusqu'aux sphères célestes. Donc, c'est plutôt d'une église byzantine qu'il parle maintenant. Mais ailleurs, il ajoutera, dans une autre partie, des toits plats reposent sur de puissantes arches et de hauts piliers de bois de cyprès qui sont ornés de magnifiques peintures multicolores, de riches dorures et de peintures dorées, et d'ornements très magnifiques et merveilleux dans le goût des Francs. Frank Pezend, Siri Ijaz Nakeschlarder. Donc là, des notations qui sont irréprochables. Et même une notation tout à fait précise et exacte lorsqu'il dit, dans plusieurs parties, le toit de l'église est recouvert de tuiles vernissées de différentes couleurs, ceux qui connaissent la cathédrale Saint-Étienne en attesteront, ce qui est la vérité. Mais plus loin, il ajoutera, les 16 piliers mentionnés plus haut, faits de porphyre, de nids d'abeilles et de chaldonite, ont chacun la valeur de 10 ans de tribut de la province d'Égypte. Ils proviennent de la ville de Saba au Yémen, de la ville à présent en ruine, où est née la reine Belkis, épouse du roi Salomon. Donc là, vous voyez, on entre dans la fiction complète, et davantage encore, lorsqu'il écrit ensuite, « Dans les niches d'angle des quatre murs se trouvent quatre armoires pour les évangiles, la Torah, les psaumes et le Coran, dont les parois sont entièrement enduites d'ambre brute. » Notation donc là tout à fait imaginaire et fantaisiste. Mais l'originalité, une autre originalité d'Evliya Tchelebi, et qui fait que son Sepharet Nameh, qui n'en est pas totalement un, est en avance sur les Sepharet Nameh réels qui suivront, c'est qu'il se permet de faire des comparaisons entre ce qu'ils voient à Vienne et ce qui existe dans les territoires du sultan. Il fait des comparaisons et il recommande, comme vous allez le voir, dans certains cas, de suivre l'exemple des Francs, ce que les ambassadeurs, auteurs des véritables Sépharet Nameh, ne se permettront pas de faire, pas directement, pas explicitement, avant le XIXe siècle. Un exemple frappant de ce que je viens de dire, c'est ce qu'il dit de la bibliothèque de cette cathédrale Saint-Étienne. Il nous dit qu'elle comprend des centaines de milliers de livres reliés dans toutes les langues du monde et que quelques moines très dévoués prennent soin de cette bibliothèque sans pareil. Et il ajoute, certes, il y a aussi dans les mosquées du sultan Barkouk et du sultan Ferej au Caire, de même que dans la mosquée du Conquérant et la Suleymaniyeh, dans la mosquée de Sultan Bayezid et dans la nouvelle mosquée à Istanbul, des collections de livres dont seul Dieu, le Seigneur des mondes, connaît le nombre. Mais la bibliothèque de l'église d'Étienne, ici à Vienne, est plus grande encore. Ama bu bejde istifan manasteronda kitab dahi ziyadedir. Et il explique ensuite qu'il y a parmi ses ouvrages de nombreux livres illustrés et il cite expressément des livres de géographie occidentale qui ont eu un certain écho dans l'Empire ottoman et qui ont fait l'objet de traductions par le géographe ottoman Katip Çelebi. Il cite l'Atlas Minor de Mercator et Ondius, qui était paru à Arnheim en 1621 et qui sera traduit du latin en turc par Katip Çelebi, comme je viens de vous le dire. Donc, l'Atlas Minor de Mercator et Ondius, et il cite également la géographie, Geographia, de d'Ortelius, parmi les ouvrages les plus précieux de la bibliothèque de la cathédrale de Vienne. Et il donne cette explication pour rendre compte du fait qu'il y a encore beaucoup plus de livres dans la bibliothèque de cette cathédrale de Vienne que dans les plus grandes bibliothèques du monde musulman. Chez nous, par contre, il n'y a pas de livres illustrés, parce que pour nous, la représentation imagée constitue un péché. C'est pourquoi ils ont tant de livres, vous voyez, parce qu'ils ont les livres normaux et ils ont des livres illustrés. Explication qui, évidemment, est loin d'être convaincante, mais dans laquelle certains commentateurs ont pu voir une critique voilée d'un rigorisme, n'est-ce pas, rigorisme musulman, aboutissant à un certain obscurantisme. Et je dois dire que l'évocation précise qu'il fait l'Atlas Minor et de la géographie d'Ortelius, donc considérée comme des merveilles du progrès humain, cette évocation précise donne quelque consistance à cette interprétation. Mais ce qui suit n'est plus ambigu du tout, où là, comme vous allez le voir, la critique se fait explicite. Ce que je veux, cher lecteur, clairement dire et indiquer à travers mes longues digressions, c'est le fait suivant. Les infidèles, par tout le territoire infidèle, savent très bien que la parole et l'écriture viennent de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont établi quelque 70 ou 80 serviteurs qui ont pour fonction particulière, une fois par semaine, de dépoussiérer et d'essuyer soigneusement tous leurs livres. Chez nous, au contraire, on trouvera à Alexandrie, en Égypte, une grande mosquée qui s'appelle Jami al-Atharin, la mosquée des droguistes, et que d'ailleurs Evliya évoque dans le passage de son livre, au tome 10, où il décrit le Caire. Or, bien que celle-ci possède un grand nombre de fondations, c'est-à-dire de sources de revenus, telles que boutiques, caravansérails, hammams, entrepôts et cuisines populaires, le bâtiment même de la mosquée est en partie effondré et en ruine. Jami Arab ve Yebab Oloup. Si bien que la pluie, cette bénédiction céleste, pénètre dans la bibliothèque et qu'ainsi des milliers d'ouvrages inestimables et de précieux écrits, tels que des Corans, de la main de, et il cite tous les calligraphes les plus fameux de l'islam, s'humidifient et pourrissent. Et tous les musulmans qui se rendent dans la mosquée, une fois par semaine, pour la prière du vendredi, entendent le crissement des mites, des vers et des rats qui rongent ces écrits porteurs de la parole de Dieu. Mais il n'y en a pas un à qui il viendrait à l'esprit de dire « Ici périssent tant de livres porteurs de la parole de Dieu ». Il faut faire quelque chose pour l'empêcher. Donc vous voyez, là, la critique est manifeste. Il ne porte pas au livre de Dieu autant d'amour que les infidèles. Ne voudrait-il pas donner en effet à cette mosquée une apparence aussi belle que celle de cette église, c'est-à-dire l'église Saint-Étienne de Vienne? Et les administrateurs responsables de cette mosquée ne voudrait-il pas la regarder avec les yeux de la pitié? Une critique très directe, une comparaison très explicite, comme vous voyez, entre ce que font les infidèles et ce que font ou ce que ne font pas, en l'occurrence, les musulmans, à propos de l'entretien et du soin des livres. Mais en même temps, avec un peu de fantaisie, même de trivialité, puisque c'est l'image de ces 70 ou 80 serviteurs employés hebdomadairement à l'époustage des livres fait sourire. D'autre part, la négligence par rapport aux ouvrages d'Alexandrie est aussi présenté de façon assez comique, n'est-ce pas, par la musique que font le crissement des rongeurs et des autres insectes qui grignotent les livres. Par conséquent, tout cela est malgré tout présenté sur un ton amusant, mais il n'en demeure pas moins que les infidèles sont donnés en exemple. En même temps, ambiguïté, là encore, de cet apologue, parce qu'ils sont donnés en exemple, non pas pour être imités, il ne s'agit pas pour les musulmans de devenir des infidèles, il s'agit d'imiter les infidèles pour être de meilleurs musulmans. En d'autres termes, l'exemple de l'autre ne doit pas vous rendre autre, mais vous ramener à vous-même. Et donc, la leçon reste malgré tout mesurée. On est dans une situation, je vous le ferai observer, tout à fait symétrique à celle des voyageurs occidentaux dans l'Empire ottoman qui donnent les exemples en Turc, qui donnent les Turcs en exemple, non pas pour eux-mêmes, mais pour ramener au contraire, leurs compatriotes à meilleurs principes. Ce que mon collègue Lestringant, grand analyste de ces journaux de voyage, exprimait ainsi, le Turc définit en quelque sorte une altérité critique par laquelle l'Européen sera jugé de l'extérieur depuis ce hors-tex que constitue l'Empire ottoman. L'éloge paradoxal du Turc vise à donner une leçon de morale aux chrétiens d'Occident. Eh bien, nous sommes, vous voyez, dans la situation exactement symétrique, l'éloge paradoxal des infidèles par Evliya Çelebi vise à donner une leçon de morale aux musulmans. Complexité et donc ambiguïté toujours de cet auteur. Au demeurant, la couverture de l'ambassade de Kara Mehmed par un auteur de l'envergure d'Evliya Çelebi reste un phénomène tout à fait unique dans littérature turque, comme d'ailleurs Evliya Çelebi est unique, et on ne retrouvera pas de texte analogue par la suite. Mais ce qu'on retrouvera, en revanche, ce sont des sefaret nameh, des récits de voyage d'ambassade qui chercheront de plus en plus à saisir les réalités des pays visités par les ambassadeurs. Cet usage des ambassades de prestige, qui commence avec celle de Kara Mehmed que je viens d'évoquer, cet usage va être développé tout au long du XVIIIe siècle. Et une impulsion à ce courant va être donnée par le grand vizir du sultan Ahmed III au début du XVIIIe siècle, ce grand vizir étant Nefşehirli Damad İbrahim Paşa. Il gouverne l'Empire au nom du sultan pendant une période particulièrement longue, si on compare avec ses prédécesseurs qui avaient été des grands vizirs très éphémères, au contraire, une période qui va de 1718 à la révolution, à l'insurrection stambouliote de 1730. Ce grand vizir prend les affaires en main dans une période qui est très difficile pour l'Empire ottoman. Je vous disais que déjà au moment du traité de Vasfar, la situation était ambiguë puisque les Ottomans avaient été dans les faits pratiquement vaincus et que c'est seulement les circonstances qui avaient amené Léopold Ier à leur consentir un traité favorable. Au moment, au contraire, du traité de Passarowitz en 1718, la situation est carrément mauvaise pour les Ottomans et le traité leur est notoirement défavorable puisqu'ils doivent abandonner plusieurs de leurs possessions, la Valachie occidentale, ce qu'on appelle l'Olteni, d'autre part, et c'est le morceau le plus important, le nord de la Serbie et la ville de Belgrade, et ils doivent abandonner aussi, par ce traité de Passarowitz, le Banat de Temesvar. Donc, situation très mauvaise, militairement et diplomatiquement, et en même temps, c'est à Istanbul, à cette époque, une période de faste, de goût pour les fêtes, les grandes cérémonies, et le sultan régnant, Ahmed III, est, comme l'écrit l'historien Hammer, grand amateur de femmes, d'oiseaux, de tulipes, de haies, de miroirs et d'illuminations. Et une des tâches de ce grand vizir, en dehors du règlement des pertes territoriales de l'Empire, c'est de distraire son sultan, n'est-ce pas, pour conserver sa faveur aussi longtemps que possible. Eh bien, c'est dans ce contexte que il envoie de nouveau à Vienne une ambassade, l'ambassadeur s'appelant d'ailleurs comme lui-même Ibrahim Pacha, il ne faut donc pas confondre le grand vizir et l'ambassadeur, il envoie cet Ibrahim Pacha porter à l'empereur à Vienne la version ratifiée par le sultan traité de Passarowitz. Donc une situation très défavorable pour les Ottomans, mais qui ne fait qu'encourager à donner encore plus de faste à cette ambassade. Et si l'ambassade précédente, celle de Karab Mehmed, avait été une grande ambassade, celle d'Ibrahim sera beaucoup plus somptueuse encore. Et un chroniqueur ottoman de l'époque, Rachid, définit bien dans la formule que je vais vous lire ce qui est désormais l'attitude des Ottomans. Il faut faire de ces ambassades un instrument de propagande, essayer de répandre, en dépit des difficultés du moment, l'idée que l'Empire reste puissant et riche. Suferanon tertibi esbab hashmetleri lazimei namusi devlet olmala. Étant donné que le déploiement des éléments de la magnificence des ambassadeurs fait partie des ingrédients nécessaires, dit-il, à l'honneur de l'État. Et il poursuit, ce chroniqueur Rachid, on donna des instructions et des explications pour que des efforts soient déployés dans toutes les actions qui pourraient être dignes de la gloire de l'État sublime. Donc, compenser les difficultés par le faste et l'apparat. L'ambassadeur choisi, donc cet Ibrahim Pacha, dont j'ai cité le nom, est, à l'occasion de sa nomination en 1719, promu à un haut grade. Il avait été précédemment le premier plénipotentiaire du côté ottoman dans les négociations de ce traité de Passarowitz. Il était Shekesani Defterdare, c'est-à-dire, si je traduis littéralement, receveur des finances du deuxième bureau, donc un poste important dans l'administration financière de l'Empire. Eh bien, à l'occasion de sa nomination comme ambassadeur à Vienne, on le promeut au titre de Roumeli Beylerbeyi, gouverneur de la Roumélie, ce qui signifie, si vous vous souvenez des précisions que j'ai données la dernière fois à ce sujet, qu'il est un Büyük Elçi, c'est-à-dire un ambassadeur de premier rang. Et on lui donne une suite qui va être encore très supérieure à celle de Kara Mehmed. Je vous avais dit que celle de Kara Mehmed, qui atteignait près de 300 personnes, avait déjà étonné. Eh bien, celle de Ibrahim Pacha comprendra 763 personnes, 645 chevaux, 100 mules, 180 chameaux. Je n'ai pas trouvé de gravure illustrant l'entrée de cette ambassade à Vienne en 1719, mais je crois qu'on en a une idée par une gravure représentant l'arrivée d'une autre ambassade, plus tardif, en 1792, à Vienne également, l'ambassade d'Ebu Bekir Ratib Efendi. Et vous voyez cette impression de flot ininterrompu, n'est-ce pas, de cavaliers et d'équipages divers s'avançant vers la ville de Vienne. Et pour équiper cette ambassade, on a sorti du trésor du sultan dans le palais de Topkapı les pièces les plus belles, ce qui illustre bien la recherche de l'effet psychologique, le côté opération de prestige que cette ambassade devait avoir. On a sorti du trésor du sultan pour en munir la suite de l'ambassadeur, des armes d'apparat enrichies de diamants et de pierres précieuses. On a sorti également plusieurs tentes de cérémonie munies de leurs tapis et de leurs coussins les plus précieux. Et il y avait, selon l'usage, simultanément, une ambassade autrichienne qui s'est rendue à Istanbul au même moment, donc je parle de 1719, celle du comte de Virmont. Donc voilà pour l'ambassade d'Ibrahim Pacha à Vienne, mais dans le même temps, le grand vizir Nevşehirli Ibrahim Pacha a l'idée d'une autre ambassade, et une ambassade très révélatrice des préoccupations que pouvait avoir ce grand vizir au début du XVIIIe siècle, une ambassade en France, une ambassade à Paris. Et autant l'ambassade à Vienne de 1719 était en quelque sorte imposée par les circonstances, puisqu'il fallait bien apporter le traité de Passarowitz à l'empereur, autant, en revanche, l'ambassade en France ne correspondait à aucune nécessité politique. Nous sommes au lendemain de la mort de Louis XIV, nous sommes sous la Régence, le roi Louis XV n'est encore qu'un enfant âgé de 11 ans, c'est le duc d'Orléans qui est régent, et les affaires étrangères sont confiées, comme vous vous en souvenez, depuis 1717, à celui qui est un peu l'âme damnée du régent, Dubois, l'archevêque de Cambrai, qui sera peu après cardinal, et qui est donc secrétaire d'État aux affaires étrangères. Or, Dubois ne s'intéresse absolument pas à l'Empire ottoman. Sa grande idée en matière de diplomatie, c'est le rapprochement avec l'Angleterre, et son désintérêt pour l'Empire ottoman, pour ce qui se passe à Istanbul, est tel qu'il ne répond même pas, qu'il ne prend pas la peine de répondre aux dépêches que lui envoie régulièrement l'ambassadeur à Constantinople, le marquis de Bonnac. Donc, rien dans ce contexte politique ne semblait indiquer la nécessité d'une telle ambassade, et d'autre part, il n'y avait pas eu, rappelez-vous, d'ambassade ottomane en France depuis celle de Süleyman Müteferrika, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, en 1669, c'est-à-dire 50 ans auparavant. Et vous vous souvenez peut-être aussi que l'ambassade de Süleyman Müteferrika s'était très mal passée. Et ce grand délai explique peut-être une affirmation qui est surprenante de prime abord dans le préambule du Sefaretnameh que va écrire l'ambassadeur chargé de cette ambassade en France, et dont je vais avoir l'occasion de vous reparler. Eh bien, au début de son Sefaretnameh, cet ambassadeur écrira « L'Empire musulman, c'est-à-dire l'Empire ottoman, n'avait point encore envoyé d'ambassadeur à l'empereur de France. Jusqu'à présent, le grand seigneur n'avait point entretenu de correspondance avec lui. » Affirmation surprenante, n'est-ce pas, notamment pour tous ceux qui ont suivi ce cours depuis son commencement, mais qui est révélatrice de l'impression qu'on a pu avoir et que, en tout cas, cet ambassadeur a pu avoir d'inaugurer quelque chose de tout à fait nouveau en se rendant en France. Lors d'un entretien entre le grand vizir Nevşehirli Ibrahim Pacha et le marquis de Bonnac, Il faut dire que, de façon peu habituelle, l'ambassadeur en question et le grand vizir en question avaient de très bonnes relations et s'entretenaient assez fréquemment et assez longuement, ce qui n'était pas du tout dans l'usage. Et ce n'est pas du tout le sort qui était généralement réservé aux ambassadeurs chrétiens à Constantinople. Mais ce comportement de ce grand vizir illustre bien la curiosité qu'il pouvait avoir pour tout ce qui se passait en Occident et notamment en France, d'où l'intérêt qu'il prenait à ses conversations avec l'ambassadeur de France. Et donc, il annonce un beau jour à son dernier que, je cite, c'est le rapport de Bonnac, son maître était dans le dessein d'envoyer une ambassade en France. Et l'idée paraît au début au marquis de Bonnac, comme il dit, fort nouvelle et fort extraordinaire. Et il ne croit pas que le grand vizir ait parlé sérieusement. Il met au contraire son propos sur le compte de ce qu'il appelle la légèreté d'esprit ordinaire du grand vizir. Tant et si bien qu'il ne prend même pas la peine, dans cette première phase, de prévenir la cour, de prévenir Paris de ce qu'il avait entendu. Mais les choses se confirment par la suite. Le grand vizir revient sur son idée. Et Bonnac demande cette fois des instructions urgentes à sa cour et il les demande avec une certaine inquiétude et conformément à ce que je vous disais il y a un instant, à l'impéritie de Dubois, il ne reçoit aucune réponse. En fait, il ne recevra la première réaction de Dubois à ce projet d'ambassade qu'au moment où l'ambassadeur en question a déjà débarqué à Toulon. Et donc, à Istanbul, on avance les préparatifs de cette ambassade en France. Quel est le motif de cette ambassade? Il faut bien qu'une ambassade ait un motif. Eh bien, le motif officiel que l'on a trouvé, c'est que cet ambassadeur est envoyé pour faire part au roi que le sultan a décidé d'autoriser la réparation de la coupole de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem qui menaçait de s'effondrer depuis pas mal de temps déjà. Et cette question avait déjà été agitée par les prédécesseurs de Bonnac, en particulier un de ses prédécesseurs ambassadeur de France à Constantinople, le marquis de Châteauneuf, avait demandé à plusieurs reprises à la porte l'autorisation de réparer cette coupole, mais les choses avaient traîné et le grand vizir avait finalement décidé d'accorder à la France l'autorisation de faire ces travaux de réparation. L'accorder à la France était, pour le grand vizir, un moyen de ne pas l'accorder à l'Autriche ou à la Russie, qui faisaient la même demande au même moment. Donc, la situation se débloque, mais le sultan y met une condition. Il demande, en échange, cette autorisation libéralement accordé, il demande la libération de 500 prisonniers turcs qui étaient retenus captifs en chrétienté et qui ramaient sur les galères du roi. Bonnac, dans sa négociation, obtient la réduction de ce chiffre de 500 à 100 ou 150, et puis les travaux de réparation avait commencé à Jérusalem, non d'ailleurs sans susciter une émeute parmi les éléments les plus échauffés de la population musulmane de Jérusalem. Et donc, ces travaux sont en cours quand l'ambassade est envoyée pour porter au jeune Louis XV la lettre du sultan autorisant cette réparation. Mais cette histoire de la voûte du Saint-Sépulcre n'est évidemment qu'un prétexte qui ne trompe personne. On sait bien que cela ne justifiait pas en soi une entreprise aussi lourde que l'envoi d'une ambassade ottomane en France.
Aujourd'hui, le Collège de France avec Gilles Weinstein. Réalisation, Thomas Duterre. Présentation, Christine Goémé.
Partenaire du film Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual. Génie du meilleur documentaire 2007, meilleur long métrage canadien, Festival de Toronto 2006. Lors d'un voyage en Chine, le photographe canadien Edward Bertinsky documente les effets néfastes de la pollution et de l'industrialisation sur les paysages naturels. Une œuvre d'art et une réflexion sur la mutation des paysages et la condition humaine. Paysages manufacturés de Jennifer Béchoual. Au cinéma le 28 novembre avec France Culture. Un petit tour chez les Français, un livre de Raphaël Kraft. Pendant les présidentielles, Raphaël Kraft, reporter pour les matins de France Culture, faisait le tour de France à vélo pour recueillir les histoires des gens. Son carnet de route, photo à l'appui, raconte une France plutôt rurale et au hasard des rencontres, c'est un bien drôle de pays qui se révèle. Un petit tour chez les Français, une coédition France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire par Emmanuel Laurentin. Cette semaine, histoire de Strasbourg et ce matin, documentaire, un pont ou une vigie sur le Rhin. En 1921, un centre d'études germaniques ouvre ses portes à Mayence. 9 ans plus tard, il s'implante à Strasbourg. Vigie ou pont sur le Rhin, le CEG fut un observatoire unique de l'Allemagne voisine, un des premiers centres interdisciplinaires créés en France, et un de ces lieux dont l'histoire navigue entre le deuxième bureau et les labos du CNRS. Anciens élèves et anciens professeurs témoignent. 10h, les humanités, aujourd'hui les mardis littéraires, par Pascal Casanova, autour du collage en poésie à propos des livres « Dispositif, dislocation » de Olivier Quintin, « Poème vulgos » de Julien Blaine, une émission en compagnie des deux auteurs et du fondateur des éditions Aldante, Laurent Couvet. 11h, question d'époque, le mardi la suite dans les idées par Sylvain Bourmeau autour des poétiques journalistiques avec des universitaires Marie-Ève Terenti, Géraldine Mühlmann, Adeline Vrona. Et tout de suite, les matins de France Culture avec Oli Madou.
Bienvenue dans les matins de France Culture, bonjour à tous. 6h59 ce mardi 27 septembre 2007, émission spéciale Proche-Orient ce matin. On va s'arrêter sur la conférence d'Annapolis entre Israéliens et Palestiniens qui démarre aujourd'hui. Ce sera le cas dès 7h15 dans les enjeux internationaux. Et puis à 8h20, nos invités seront deux spécialistes de l'histoire et des enjeux de la région. Henri Laurence, il est professeur au Collège de France où il occupe la chaire d'histoire moderne du monde arabe. Et Olivier Roy, il est directeur de recherche au CNRS. Tous deux nous aideront à décrypter les enjeux de cette conférence d'Annapolis. En ligne également avec nous depuis Israël, Ilan Grell-Samer. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Il est donc dans un pays qui est en état d'alerte pour 3 jours. Alors que peut-on attendre de cette énième réunion? Comment reprendre un processus de négociation bloqué depuis plus de 7 ans? Voilà quelques-uns des dossiers qui seront au sommaire de cette émission. Pour leur place à l'information, il est 7h. 7h, le journal de Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Plus de 60 policiers blessés, 5 dans un état grave. Seconde nuit de violence à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. La mort des deux adolescents dans une collision entre leur moto et un véhicule de police a de nouveau enflammé certains quartiers. Une bibliothèque municipale a été réduite en cendres. Deux écoles incendiées. Nous viendrons bien sûr sur ces événements dans la deuxième partie de cette édition. Un journal qui nous verra également partir au Mali où se rend Brice Hortefeux dans un climat pas forcément apaisé. À Annapolis, aux États-Unis, à quelques heures de l'ouverture de la conférence sur le processus de paix israélo-palestinien. À Pékin, où Nicolas Sarkozy s'est fait le chantre de la défense de la planète ce matin. Et puis en France encore, les étudiants qui se mobilisent de nouveau aujourd'hui en rang dispersé. Et l'égalité professionnelle homme-femme, Xavier Bertrand menace les entreprises fautives de lourdes sanctions financières en 2010. Un New Deal écologique, voilà ce que Nicolas Sarkozy propose à la Chine. Après avoir engrangé quelques 20 milliards d'euros de contrats, une manne dont on se félicite chez Airbus, surtout Areva aussi ou encore chez Alcatel, eh bien c'est à sauver la planète que le président français s'est attelé ce matin. Jugez-en plutôt par ses propos. « Je ne suis pas venu simplement pour signer des contrats et puis repartir chez moi », a-t-il déclaré. « Je suis venu poser les bases de cet accord stratégique qui nous permettra dans la durée, Chine et France, de construire l'avenir pour l'humanité. » Voilà ce qu'il a déclaré aux étudiants de l'université Tsinghua de Pékin. Sur place, le reportage de Patrick Lelong.
Les changements climatiques menacent durablement et collectivement notre développement économique et social. Ils risquent d'affecter profondément la croissance des pays émergents et industrialisés à court terme. Il faut donc réagir sans tarder. C'est le sens du discours de Nicolas Sarkozy devant les étudiants chinois.
Je suis venu vous dire que le défi que nous avons à relever pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques sur la planète, ce défi engage l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas simplement la question des Chinois, de l'Europe ou des Français, c'est la question de l'avenir de l'être humain sur la planète. La réponse que nous mettrons ensemble nous permettra de faire du monde de demain un monde d'opportunités. La croissance, le développement doivent aller de pair avec la protection de la nature. Nous ne pouvons plus opposer développement et protection de la nature.
Le point central de la politique ambitieuse que veulent mettre en place conjointement la France et la Chine demeure la diminution des effets de gaz à effet de serre. Reste à décarboniser la croissance. Nicolas Sarkozy propose à la Chine de se joindre à un nouveau contrat mondial, un New Deal écologique et économique.
Reportage de Patrick Lelong et cette proposition d'un New Deal faite par Nicolas Sarkozy est assortie d'un avertissement aux Chinois. Il défendra, dit-il, le principe d'un mécanisme de compensation carbone aux frontières de l'Union européenne et ce, à l'égard des pays qui ne se doteraient pas de règles contraignantes en matière de réduction des gaz à effet de serre. Deux villes dans l'actualité, deux villes où doit se concocter la paix, deux noms, Baden en Autriche, tentative de la dernière chance pour trouver un statut pour le Kosovo. Les Albanais veulent l'indépendance de cette province serbe où ils sont majoritaires, la Serbie l'exclut toujours. Peu d'espoir de trouver un terrain d'entente avant le 10 décembre, la date butoir au-delà de laquelle les Kosovars risquent fort de déclarer leur indépendance de façon unilatérale. Voilà donc Baden qui risque de ne pas rester dans l'histoire comme la ville des retrouvailles entre Serbes et Albanais. Et Annapolis, aux États-Unis, c'est là que doivent se retrouver Israéliens et Palestiniens, pressés par George Bush de relancer le processus de paix. Les attentes là non plus ne sont pas très élevées. Les deux parties ne sont toujours pas d'accord sur les bases sur lesquelles elles doivent entamer ces négociations. Les négociations pour trouver un début d'accord se poursuivent encore. Le président américain les a en tout cas exhortés à de difficiles compromis pour la paix. La paix au Proche-Orient, elle a déjà épuisé de nombreuses conférences, Nadine Epstein.
La feuille de route, les paramètres Clinton, le plan Bellin, le plan saoudien, Camp David, Sharm el-Sheikh, Taba, Madrid, pour ne citer que quelques-uns des plans de paix et des rencontres internationales qui se sont succédés depuis 30 ans pour régler le dossier du Proche-Orient sans jamais déboucher sur une véritable paix entre Israéliens et Palestiniens. En 2000, Bill Clinton voulait quitter la Maison-Blanche avec un traité signé en bonne et due forme entre le premier ministre israélien Ehud Barak et le président palestinien Yasser Arafat. 7 ans plus tard, c'est George Bush qui renouvelle l'expérience, espérant réussir là où son prédécesseur avait échoué. Enfin presque, car le président américain a revu à la baisse ses objectifs. Annapolis ne sera pas le lieu où sera signée la paix, mais le début.